J'ai maintenant l'honneur de présenter collègue Madame la chancelière Emerita. J'ai maintenant l'honneur de présenter notre ministre Jean-Marc Fournier. Monsieur Fournier a eu une longue et remarquable carrière en service public. C'est la deuxième fois que nous avons le privilège d'accueillir le ministre ici à McGill dans son, pour le ministre dans son rôle formel. Et c'est bien, bien savé, mais Monsieur Fournier est le député de Saint-Laurent, ministre de la Justice et leader parlementaire du gouvernement de Québec. As I said, Minister Fournier has a really tremendous career of public service, having served both on the side of the civil service, the public service as a senior bureaucrat, and also as a minister in several ministries. Monsieur Fournier était un avocat pour presque 10 ans. He's worked at the offices of the Ministry of Governmental Affairs, Employment and Justice. Il a étudié à notre institution, l'Université de Montréal. He obtained there a law degree and later a master's degree in public law. I know you're waiting to hear from him, as I am. I want to just say prior to asking him to come to the podium that following his presentation, Faisal Ghulam Hussein, an articling student from McGill at McCarthy Tétreault, graduated from McGill last spring, will formally thank the minister. Mais c'est maintenant avec grand, grand plaisir que je vous présente l'honorable Jean-Marc Fournier.
Merci beaucoup, Madame Monroe Bloom. C'est toujours un honneur et un plaisir de vous revoir. Je me souviens de moments heureux que nous avons passés ensemble et c'est très agréable d'être ici, Monsieur le directeur, Monsieur Straw, Monsieur le doyen, Monsieur Jutras, distingués invités, chers collègues, futurs collègues juristes, mesdames et messieurs. Mes premiers mots sont donc pour remercier l'Institut d'études canadiennes McGill de m'avoir accordé le privilège de participer à son colloque 2012 sous le thème « La criminalité et droit, l'avenir de la justice au Canada », un moment plutôt approprié pour discuter de la chose aujourd'hui, cette semaine. This conference comes at an important moment given that last Monday the federal authorities adopted Bill C-10, which introduces an area of new criminal provisions. I think there may be some connection between your invitation and the adoption of the bill, or let's say the presentation of the bill. The invitation came before. We can discuss the content, the subject matter, of course, but also the political context in which the debate leading to the adoption of C-10 took place. I will address both. Nous sommes tous d'accord sur le fait que le crime doit être puni. La protection du public commande une réaction forte et soutenue à l'encontre du comportement criminel. Le contrevenant doit être tenu responsable de ses gestes et doit être soumis à une peine comportant des conséquences significatives. C'est pourquoi le Québec est d'accord avec plusieurs des dispositions contenues dans le projet de loi C-10. Par exemple, celle portant sur la détention avant procès des adolescents ayant commis des crimes graves, ou encore celles qui permettront au tribunal d'obtenir un portrait beaucoup plus complet de l'adolescent, de manière à tenir compte des sanctions extrajudiciaires imposées dans le passé. Nous croyons aussi, cependant, qu'il ne suffit pas de réprimer le crime. Il faut aussi lutter contre la récidive du crime si nous voulons en prémunir la société. Et c'est là où, à notre avis, C-10 faillira à la tâche. Cette nouvelle loi contient des mesures qui atténuent l'importance que l'on attribue et doit attribuer à la prévention et à la réadaptation. Et cela est particulièrement vrai en matière de délinquance juvénile, un secteur qui a fait ses preuves au Québec où nous disposons d'une expertise de 40 années en la matière. Évidemment, le palier fédéral étant souverain dans sa compétence, nous devrons, de notre côté, nous adapter à la nouvelle situation, nous adapter en prenant appui sur notre propre compétence constitutionnelle d'administration de la justice. Cette réalité fait partie de l'ordre constitutionnel et, comme l'a dit la Cour suprême, elle représente un moyen légitime de promouvoir les valeurs d'un système fédéral. Notre structure constitutionnelle établit un équilibre entre les intérêts nationaux et les priorités locales qui permettent et encouragent la collaboration du fédéral et des provinces en droit criminel. La Constitution reconnaît donc l'opportunité d'adopter dans différentes régions des façons différentes d'aborder l'administration du droit criminel. Je tiens à le préciser encore plus clairement. La marge de manœuvre du Québec ne relève pas d'une responsabilité administrative, mais bien d'une compétence constitutionnelle. Ainsi, j'ai annoncé mardi dernier que dans la mesure où la loi fédérale et nos lois québécoises le permettent, nous allons prendre les moyens nécessaires pour endiguer l'effet des dispositions qui, à notre avis, ne contribuent pas à une lutte efficace contre la récidive. Pour ce faire, nous avons mis au point un plan à plusieurs volets. Un élément clé de ce plan concerne les orientations que le ministre de la Justice donne au directeur des poursuites criminelles et pénales. J'ouvre une parenthèse pour rappeler que le ministre de la Justice a la responsabilité légale d'établir la politique publique de l'État en matière de justice. Il élabore des orientations et prend des mesures concernant la conduite générale des affaires en matière criminelle et pénale. À cet effet, il publie des orientations qu'il adresse aux directeurs des poursuites criminelles et pénales. À l'heure actuelle, une vingtaine d'orientations ont été élaborées par les différents ministres de la Justice. Toutes ces orientations sont publiques. Dans ce cadre, j'ai donc l'intention de revoir l'orientation 14, qui porte sur l'application de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. J'ai d'ailleurs reçu l'appui de nos partenaires dans cette réflexion, dont évidemment celui du directeur des poursuites criminelles et pénales, afin de m'assurer d'utiliser toute la marge de manœuvre que nous permet la loi pour préserver le modèle québécois de justice applicable aux jeunes, modèle que tous reconnaissent, tous. Je parle ici de ceux qui font de cette matière leur travail au quotidien, les praticiens, tous les jours. Tous reconnaissent un modèle qui est particulièrement efficace. D'abord, la mise à jour que nous sommes en train de préparer insistera sur le fait que les décisions du poursuivant doivent tendre à maintenir la protection durable du public. Un concept qui était inclus à la loi avant que ces 10 ne l'abrogent. Un concept qui favorise la réhabilitation. Ou dit inversement, la réhabilitation nous amène à cette protection durable. Elle favorise la protection durable. Soulignons ici que CEDIS a modifié ce concept de protection durable du public pour le remplacer par celui de protection du public. Simple question de sémantique, me répondent mes interlocuteurs fédéraux. Mais alors, dans ce cas, pourquoi retirer ce concept? Peut-on leur répondre à notre tour? La réponse réside sans doute dans le fait que CEDIS a un parti pris carcéral et donc atténue d'autres moyens de sanctionner un comportement répréhensible et alors s'éloigne d'un effet durable. Cela dit, CEDIS ne rend pas inopérants les concepts de réadaptation et de réinsertion. Dans ce contexte, l'orientation rappellera les enseignements de la Cour suprême selon lesquels, à long terme, la société est mieux protégée par la rééducation, la réadaptation et la réinsertion sociale d'un adolescent. L'orientation continuera d'inciter le poursuivant à garder à l'esprit que le recours aux mesures extrajudiciaires représente un moyen éprouvé, voulant dire qui a fait ses preuves, de s'attaquer à la délinquance juvénile et qu'en matière de sanctions, il est important de recommander une mesure juste et proportionnelle qui tient compte de la victime et est compatible avec le degré de maturité de l'adolescent. Ensuite, notre orientation adressé au directeur des poursuites criminelles et pénales incitera le poursuivant à utiliser de façon exceptionnelle ses pouvoirs relatifs à la levée de l'interdiction de publier l'identité de l'adolescent. Encore ici, notre orientation s'inscrira dans le respect de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada. J'ajoute que cette opinion est aussi partagée par le juge à la retraite Merlin Nunn, qui l'a très clairement indiqué l'automne dernier, alors que le gouvernement fédéral prétendait pourtant s'appuyer sur le rapport du juge Nunn pour proposer le projet de loi C-10. Dans un objectif de prévention du crime et de réduction du nombre de victimes, il faut viser la réadaptation et la réinsertion des jeunes contrevenants. Dans ce contexte, la publication de l'identité doit donc demeurer une exception. Enfin, j'ajoute au passage que le directeur des poursuites criminelles et pénales a créé, le 1er février dernier, un bureau spécialisé dans les poursuites à l'encontre des adolescents contrevenants, le Bureau des affaires de la jeunesse. Ce bureau va faciliter l'application des nouvelles orientations. Deuxième élément de notre plan concerne la fixation de l'âge qui oblige le procureur général à déterminer s'il demande qu'un adolescent soit assujetti à une peine applicable aux adultes. La loi actuelle prévoit la possibilité d'imposer une peine applicable aux adultes lorsque l'adolescent a commis une infraction après avoir atteint l'âge de 14 ans. Il peut en effet arriver, dans certains cas, que les circonstances de l'infraction et le degré de maturité de l'adolescent justifient que le procureur général réclame une peine pour adultes. Le procureur général, les procureurs de la Couronne, ont l'obligation de déterminer s'ils présenteront une demande d'assujettissement à une peine adulte au tribunal lorsque l'adolescent commet une infraction grave. La nouvelle loi impose désormais que s'il choisit de ne pas présenter une telle demande, il est tenu d'en aviser le tribunal. Le législateur fédéral demande donc au procureur de se justifier chaque fois qu'ils n'ont pas recours aux peines pour adultes. On est toujours en matière de jeunesse. Ainsi, les nouvelles dispositions privilégient le recours aux peines adultes. Nous continuons de penser et de privilégier une sanction adaptée à l'adolescent contrevenant, adaptée à l'infraction commise, adaptée à la victime, adaptée aux circonstances de l'infraction. La flexibilité accordée par le projet de loi C-10 permet aux provinces de fixer un âge de plus de 14 ans, mais de 16 ans maximum, pour ce nouveau fardeau imposé au poursuivant d'aviser le tribunal qu'il n'a pas l'intention de demander une peine pour adulte. Le Québec choisira de fixer cet âge au maximum, à 16 ans. La flexibilité offerte par la loi nous permettra de préserver au maximum le pouvoir de rechercher la sanction adaptée au contrevenant, à la victime et aux circonstances de l'infraction. Le troisième moyen retenu consiste à accélérer la mise en place d'un programme judiciaire de traitement de la toxicomanie. Le traitement en toxicomanie des délinquants au cours des procédures judiciaires n'est pas nouveau à la Cour du Québec. Les prévenus y ont eu recours lors de la comparution, par exemple, pour être mis en liberté et pour bénéficier ou pour bonifier leur dossier au gré de l'offre de services des maisons de thérapie. Le programme que s'apprête à mettre en place le gouvernement systématisera l'approche et l'encadrera pour nous permettre de redonner une marge de manœuvre aux juges, autrement condamnés, à suivre le dictat de la peine minimale. Faisons ici un petit retour sur le concept de peine minimale, qui, je suis persuadé, intéresse les étudiants en droit. La nouvelle loi privilégie l'imposition de peines minimales pour certaines infractions. On s'écarte ainsi d'une réflexion sur la mesure appropriée à chaque cas pour une protection durable et pour éviter la récidive. On le sait, il se trouve des autorités et bien des experts pour dénoncer les effets pervers des peines minimales. Il nous semble peu approprié d'ériger en règle générale ce qui devrait être une exception. Il ne revient pas aux parlementaires, et je vous le dis en assumant avec beaucoup d'enthousiasme le fait que je suis un parlementaire. Il ne revient pas aux parlementaires de déterminer à l'avance la sentence de chaque criminel. La nature du crime constitue bien sûr un élément central de la détermination de la peine. Toutefois, les faits de la cause, les torts causés à la victime et toutes les circonstances particulières propres à un crime sont des éléments qui ne peuvent être écartés à moins de vouloir revenir au code d'Hammurabi. Nous préférons, et de loin, faire confiance aux procureurs et aux tribunaux pour recommander et déterminer la peine appropriée compte tenu de l'ensemble des circonstances. Comme l'a dit si bien Maître Jean-Claude Hébert, le projet de loi C-10 transforme les tribunaux en guichets automatiques de peine d'emprisonnement. Le juge nous paraît encore le mieux placé pour déterminer une peine qui tienne compte de tous les éléments du dossier. Revenons au programme judiciaire de traitement de la toxicomanie. Parmi les infractions visées par les peines minimales, on en retrouve certaines en matière de drogue. Mais dans ce cas, elle prévoit la possibilité pour un tribunal d'aller en deçà de la peine minimale si un contrevenant réussit un programme judiciaire de traitement de la toxicomanie, un programme approuvé par la province. En matière de drogue, le gouvernement fédéral reconnaît donc les bienfaits de tenir compte des particularités du contrevenant pour lui imposer la peine la plus appropriée. Ici, C-10 permet de s'attaquer à la cause de la délinquance plutôt que de se limiter uniquement à ses effets, de façon à favoriser la réhabilitation du contrevenant et à éviter la récidive. Au moins ici, le législateur fédéral semble faire écho à notre préoccupation pour une sanction durable. La loi met ici un bémol sur les peines minimales et nous entendons profiter de cette ouverture. Nous espérons pouvoir démarrer le programme à la Cour du Québec à Montréal en cours d'année. Le programme de traitement sous supervision judiciaire sur lequel nous travaillons prévoira notamment qu'une évaluation scientifique de la toxicodépendance et de la thérapie requise doit être effectuée et que les ressources qui offrent des services de traitement doivent être certifiées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et satisfaire aux exigences de sécurité du ministère de la Sécurité publique. Le programme prévoira des interventions visant à préserver les acquis de la thérapie après celle-ci et à éviter que le délinquant ne récidive. Le programme précisera que la sécurité du public doit être l'un des principaux considérants pour qu'une thérapie puisse être offerte à un délinquant et qu'une attention particulière doit être portée aux victimes. Quant au financement d'un tel programme, la dernière réunion des ministres de la Justice fut l'occasion de demander au gouvernement fédéral d'élargir le financement pour couvrir de nouveaux tribunaux et des initiatives semblables au programme que nous nous apprêtons à réaliser. La demande fut prise en délibéré par le ministre fédéral de la Justice et nous attendons donc une réponse à cet égard. Le sujet des contributions financières m'amène à aborder la question plus large des coûts associés à l'adoption par le fédéral de la loi C-10. Tranquillement, transportons-nous du domaine juridique un peu plus vers le domaine politique. Pour le Québec, nous estimons entre 40 et 80 millions de dollars annuellement les coûts engendrés par la nouvelle loi, sans compter les immobilisations. Au Québec, la construction de nouvelles prisons coûterait aux contribuables 750 millions de dollars, selon les plus récentes estimations du ministère de la Sécurité publique. L'Ontario n'est pas en reste, avec une facture qu'elle évalue à 1 milliard de dollars. Lors des représentations multiples que j'ai faites auprès du gouvernement fédéral relativement aux coûts supplémentaires qu'on veut nous voir acquitter, j'ai fait valoir que le Québec n'a pas à financer les coûts d'une initiative d'un gouvernement fédéral qui a refusé la collaboration des provinces à l'égard du contenu de la loi. Le gouvernement fédéral ne peut jouer à l'autruche et nier que certaines provinces, au moins, devront construire des provinces, ce qui exige des délais autant que de l'argent. Je continue d'en appeler à une prise de conscience des autorités fédérales en ce qui a trait aux coûts et aux délais d'implantation. Ottawa doit assumer les coûts de ces initiatives. Finally, although we are disappointed by the adoption of several of these provisions, we will apply the law because it is our duty to do so. However, I should add that we will implement all the measures authorized by the bill to maintain the progress made by Quebec in the field of criminal justice. Our goal is still to punish criminal behavior while preventing crime in the future. Our goal is still to focus on rehabilitation to reduce the risk of reoffending. Our goal is still to ensure long-time protection for all Quebecers. For all these reasons, at the conference in Charlottetown in late January, that brought together the minister responsible for justice and public safety across Canada, I reiterate my concern about Bill C-10. At my suggestion, Canada's justice minister have agreed to set up a committee of federal, provincial, and territorial deputy minister to look at the question of prevention and rehabilitation.